Je pense à la question de la communauté. Communauté d'artistes, communauté de penseurs, communauté de poètes aussi. Cette question, elle était très présente dès le début de ton travail, puisque tu as fait partie de groupes, longtemps, et de groupes, je pourrais dire de textes expérimentaux ou de poésie expérimentale, je voudrais pas, c'est comme ça qu'on dit maintenant, peut-être. De groupes féministes, hein, puisqu'on est sous, on pense au féminin aujourd'hui, on est sous les roses et le corps féminin. Quelle est la place de la communauté dans votre travail, communauté de féminine, ou est-ce que ça bouge le rapport à la communauté, est-ce que ça a toujours été la même chose, que vous avez besoin de partager toutes les deux, comment ça se passe, même pour toi qui es exilée, qui est en tout cas exilée d'une certaine communauté francophone, c'est parce que tu écris dans les deux langues, et comment ça se passe pour toi peut-être?
Je vis à Chicago.
Ouais.
Écoute, moi, la question de la communauté, le mot même de communauté, j'ai une certaine réticence par rapport à ça, même si peut-être, je me suis lancée dans des trucs dans les années 90, mais moi, c'est vraiment un truc dont je me méfie plus que je n'essaie de m'en rapprocher. Alors, pour moi, vraiment, j'aime beaucoup l'idée de Derrida, de l'isolement, c'est-à-dire de la rencontre. De l'amitié, mais quand même l'idée de se retrouver au sein d'un groupe qui est quand même souvent défini en fonction d'homogénéité, ça j'ai un peu plus de difficultés. Et c'est sûr que les choix que j'ai faits ont souvent été des choix de départ.
Ouais.
Il y a eu beaucoup de traversées, j'ai beaucoup quitté des endroits et c'était pas pour partir à la recherche de quelque chose qui soit forcément en dehors de l'écriture, mais c'est pas...
Je suis d'accord, mais tu as beaucoup d'amis qui sont écrivains ou écrivaines.
Oui.
Mais ça se fait, c'est sous le signe de l'amitié, c'est ça, c'est...
Plutôt, oui. Enfin, moi, l'idée de la communauté, je sais que ça peut se définir de différentes façons, mais c'est vraiment un truc plutôt homogène. Et ça peut se définir autrement, mais c'est vraiment dans les rapports... c'est dans les rencontres, les échanges, mais pour moi ça se passe seul à seul, quoi. C'est pour ça que ce mot d'isolement j'aime beaucoup, parce que ça reconnaît aussi un état de solitude dans lequel, pour moi en tout cas, je suis obligée d'assumer afin de pouvoir faire mon travail. Je trouve que ça provoque un décalage terrible de se retrouver, d'abord de passer d'un texte à la parole, et en plus de sa solitude, a un rapport verbalisé au monde. Ça, je trouve ça très éprouvant, très exigeant, quoi. Alors, des rencontres comme ça, me demande beaucoup, même si je trouve ça important, je suis d'accord avec Nicole.
Ça te demande beaucoup, c'est ce que tu dis.
Ça m'exige beaucoup, ouais. Mais je le fais sans doute beaucoup moins.
Ben moi, j'ai joué au ballon panier et au tennis avec bonheur. Et voilà. Et à la balle au mur aussi. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des temps historiques aussi, hein, qui ne dépendent pas seulement de notre rapport à l'écriture. De toute façon, on le sait qu'on est seul dans l'écriture. Mais au moment où j'avais 20 ans, je commençais à publier, il y avait un enthousiasme absolument débordant, une grande turbulence dans la société québécoise, et c'était extrêmement riche et porteur, ces rencontres, que ce soit à la barre du jour, que ce soit avec d'autres groupes aussi, qui parlaient plus de politique que de littérature, et ça a toujours été important. Pour ce qui est de la rencontre avec d'autres femmes, alors là aussi, d'abord il y a le partage, mais il y a le projet. Et le projet est un élément. Moi, j'ai toujours eu des projets, que ce soit de l'anthologie de la poésie des femmes avec les Lisette Girouard ou avec d'autres, La Nef des sorcières ou avec Luce Guilbeault pour le film sur les féministes américaines. Donc, c'était des moments très intenses et qui faisait que j'étais bien dans ce type d'échange. Mais bien sûr qu'on sait que lorsqu'on écrit, on est seul et personne ne pourra le faire pour nous, ne pourra que stimuler par rapport à l'amitié, ce que tu disais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, les conditions ont changé. L'individualisme est beaucoup plus grand. Et je dirais même qu'il y a une différence entre les rencontres entre poètes et les rencontres entre romanciers oui, et romancières, oui. Qui, eux, vendent des livres, en principe, alors que les poètes en vendent très peu. Et une des choses qui m'a toujours fascinée, c'est qu'entre poètes, très souvent, bien sûr que les différences demeurent, mais il y a des éléments d'âge, de classe sociale, qui s'effacent au profit de l'essentiel, c'est-à-dire au profit de l'être, au profit de chaque singularité. Et ça, c'est très, très beau. Et c'est vrai que ça se passe ainsi plus facilement entre poètes.
Bon. Ok, à partir de ce que vient de dire Nicole, je vais rebondir sur une question qui se veut un peu taquine. C'est pourquoi la poésie est-elle la chose la plus supérieure dans la littérature, hein, la forme la plus supérieure de la littérature. Je suis pas contre ce que vous dites d'ailleurs, mais j'ai envie de vous demander pourquoi et qu'est-ce que c'est être poète, qu'est-ce que vous avez que j'ai pas.
Le poète René Dommal disait le roman dit quelque chose et la poésie fait quelque chose. Donc, il y a une posture différente. Mm-hmm. Il y a certainement une posture différente face au langage, face à la tension du langage. Et moi, je dis toujours, parce qu'on passe d'un genre à l'autre, on peut poser la question sur le poème en prose, par exemple. Pourquoi ne pas écrire un poème? Pourquoi faut-il écrire des poèmes en prose? C'est que la prose rééquilibre les points de tension, j'ai l'impression, alors que le poème exige toujours d'être en état de tension. Il est toujours au présent quand on le lit, quand on l'écrit, même si on met 6 mois à travailler un poème, on est toujours au présent, on est toujours dans l'instant, quand on le lit aussi, et on ne peut pas négocier avec un poème, on ne peut pas dire « j'aime cette partie du poème, on l'aime ou on ne l'aime pas ». Un roman, on peut aimer des parties du roman, d'autres qui nous plaisent moins, mais c'est négociable. Et c'est dans la durée, bien sûr, on est dans la durée. C'est vraiment une autre posture par rapport au monde, au regard sur le monde, et bien sûr à la façon de vivre aussi son présent dans la langue, je crois.
Tu veux répondre là-dessus?
Oui, je pense que je le pense un petit peu différemment. Et je ne suis pas d'accord avec ce que éventuellement je croirais. C'est-à-dire que moi, je ne mettrais pas la poésie en haut, forcément. Et d'abord, même d'en arriver là, je me poserais la question de savoir ce qu'est la poésie. Je trouve que déjà, la poésie, s'il faut retenir ce terme, et je n'en suis pas, moi personnellement, je prends mes distances par rapport à lui depuis plusieurs années déjà, je ne le limiterai pas à un genre en particulier. C'est-à-dire que le poétique, si on peut peut-être employer ce terme, traverse différents genres. Ça traverse les romans.
On pourrait se demander si Nicole, tu as fait vraiment des romans, si tu n'as pas fait juste de la poésie.
On peut aussi se dire qu'il y a énormément d'écritures qui se disent poésie, qui ne l'est pas du tout.
Oui, c'est vrai.
D'ailleurs, il ne suffit pas de regarder très loin. Hein, que ce soit au Canada, au Québec, aux États-Unis, il y a toute une machine à rendement de poésie qui n'a rien à voir avec la poésie.
Bien sûr.
Ça, on pourrait parler de ça pendant des heures.
Bien sûr.
Et donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, personnellement, dans mon travail d'écriture et dans mes lectures aussi, je lis beaucoup plus de philosophie que je ne lis, et là encore, philosophie, de poésie. Je ne fais pas de distinction entre des genres. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est justement là où les genres dérapent et ne se ressemblent pas. Parce qu'à partir du moment où un texte m'interpelle, c'est que déjà, il a dépassé les limites de son genre. Mmh. Alors, à partir de ce moment-là, les distinctions génériques, pour moi, je trouve qu'elles ne sont vraiment pas très intéressantes. D'autant plus qu'elles servent de plus en plus cette machine corporatiste, universitaire, des MFA, des programmes de création littéraire et compagnie, qui, pour moi, n'ont rien à voir avec la littérature, n'ont rien à voir avec une pensée, qui ont tout à voir avec, justement, ces questions de commerce, commercialisation, machin, de capitalisation sur le livre, moi, qui ne m'intéresse pas et qui me dépasse complètement.
Ben pour être encore plus dépassée, de plus en plus, et les grandes multinationales se servent de ce qu'on appelle le storytelling, mm-hmm, mm-hmm. C'est-à-dire que c'est un mécanisme. Avant, les grandes compagnies avaient un logo, mais maintenant, elles ont besoin d'avoir une histoire. Donc, elles ont besoin de narrateurs d'histoire pour pouvoir vendre leurs produits. Et on parle des genres, mais on parle de la créativité. Mm. La créativité est devenue un objet de commerce de plus en plus rentable et, semble-t-il, nécessaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelque temps, tout le monde doit être très créatif, créateur, etc. C'est devenu un autre objet de consommation. Mm-hmm. On est rendu plus loin, mais c'est aussi le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'il y a eu un déplacement d'activités extrêmement riches pour l'esprit, la pensée, l'émotion. Et puis ce déplacement, maintenant, est de plus en plus mis au service des grandes multinationales ou de l'excès marchand, de la mesquinerie marchande, de plus en plus. C'est difficile à accepter ou à croire, mais il en est ainsi. Pour revenir à la poésie, bien sûr que moi, j'ai toujours dit que ce qui fait qu'un roman nous soulève ou nous emporte, c'est sa dimension poétique aussi. Mmh. Parfois, elle est excessive. Mmh. Mais si on pense, par exemple, à l'écriture de Pascal Quignard, voilà une écriture qui est à la fois narrative, philosophique et qui a une charge poétique très, très grande parce qu'il travaille avec des mots très chargés symboliquement et il sait très bien les déplacer soit dans la narration ou dans la réflexion philosophique. Mmh. Tu vois? Donc, c'est certain qu'on repère rapidement le mauvais recueil, on repère rapidement, c'est sûr. Mais il n'en reste pas moins que ce sont des postures. Postures, et parfois notre posture est émouvante aussi, parce qu'on a besoin à la fois de raconter. Par exemple, si on pense à l'écriture des femmes, c'était important, cette dimension narrative. Elles avaient besoin d'être audacieuses. Elles passaient par une formulation poétique, mais elles avaient besoin aussi de raconter, de dire. Donc, on a cette pratique du poème en prose chez les femmes, je pense à France Théoret en particulier, mais qui s'est développée dans les années 75-80 en particulier, avec cette conscience féministe qui nécessitait d'être peut-être dans les deux postures, en fait, à ce moment-là, parce que le monde était à refaire.
Donc on ne fait pas seulement de la poésie contre la narration.
On fait de la poésie parce que c'est notre façon d'être au monde dans la langue. Mm-hmm. On ne fait pas de la poésie contre la narration en tant que telle. Moi, j'ai des petits mécanismes un peu bizarres où j'ai dit des choses terribles, parfois sur le roman, mais c'était sans doute très, très, très injuste, bien sûr.